C'est moi, c'est Lola. Celle qui dit v'là un bateau, v'là un samedi, v'là des matelots.
Personnage en personne par Charles Danzy. Auteur Stanley Donen, 1924-2019. Cinéaste américain hétérosexuel. Gene Kelly, 1912-1996. Danseur, chorégraphe américain hétérosexuel. Œuvre Chantons sous la pluie, Singing in the Rain, 1952. Personnage Don Lockwood, interprété par Gene Kelly. Les meilleures œuvres d'art sont celles qui s'intéressent à cet art. À la recherche du temps perdu est un roman avec des aventures, mais aussi un roman sur le roman. Il n'y a pas de meilleure preuve de ce que le cinéma est un art raffiné que le fait qu'il existe tant de films sur le cinéma, certains excellents, comme La nuit américaine de François Truffaut, d'autres géniaux, comme Le 8,5 de Federico Fellini, tous étant intéressants. Parmi les meilleurs, Chantons sous la pluie de Stanley Donen et Gene Kelly. C'est une satire de la chute du cinéma muet face aux parlants et aussi des impostures de Hollywood. Le personnage de Don Lockwood, interprété par Gene Kelly, est un acteur du muet qui réussit le passage aux parlants alors que sa partenaire habituelle, Lina Lamont, échoue à cause de sa voix de ménate. D'une certaine façon, c'est un film cruel. Il semble ridiculiser tout le cinéma muet avec ses contrastes et son emphase qui avait pourtant produit bien des chefs-d'œuvre. 90 ans après, le parlant a-t-il tellement de quoi se vanter? Il a introduit dans les oreilles du monde des dialogues si souvent mal écrits qu'ils grincent et si corrompus de clichés et de locutions figées que le cinéma muet pourrait se moquer de lui en l'imitant. Vous commettez une grossière erreur, vous n'avez pas fait la différence. D'une certaine façon, le parlant n'a rien à voir avec le muet. Ils ont en commun les images mouvantes, mais guère plus. Le cinéma muet ressortissait plutôt au mime. Et s'il a l'air ridicule, selon le point de vue de Chantons sous la pluie, c'est une vanité d'enfance. Pour être juste, ce que Chantons sous la pluie montre surtout, c'est le mélange si particulier aux arts du spectacle, du mensonge commercial, ce qu'on appelle la légende, et d'un authentique goût de l'art. Don Lockwood, ancien artiste de cabaret populaire devenu star qui prétend avoir suivi les meilleures écoles, est un acteur sans susceptibilité et, ne l'oublions pas, de beaucoup de talent. Il ne se prend pas au sérieux, mais il prend son art au sérieux. Qui est Don Lockwood? Pour en parler, je reçois Ente Bin, historien du cinéma et spécialiste de la comédie musicale. Ente Bin, à quoi ressemble physiquement Don Lockwood?
Don Lockwood, c'est un héros de cinéma qui arbore le sourire victorieux de Gene Kelly, mais qui cache aussi des failles. Ces failles étant aisément dissimulé lorsqu'il est star de cinéma muet. C'est une idole de l'écran. Il est fringant. Il est sans doute plus jeune à l'écran que son véritable âge. C'est-à-dire qu'il dissimule aussi ça.
Et ça veut dire, pardonnez-moi, il aurait quel âge d'après vous dans le personnage de Don Lockwood?
C'est plutôt un trentenaire. Or, Gene Kelly a 40 ans quand il fait le film. Il est au summum de sa popularité. Et d'une certaine manière, le personnage de Don Lockwood est inspiré de la personnalité de Gene Kelly.
D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que le film a été créé au départ ni pour ce personnage, ni pour aucun autre, mais pour mettre en valeur certaines chansons, c'est ça?
Absolument. Le film, au départ, est un film de catalogue. C'est un sous-genre qui a donné ce qu'on appelle aujourd'hui les jukebox musicals, c'est-à-dire on prend le catalogue d'un grand artiste, souvent un compositeur, et puis à partir de chansons qui ne sont pas forcément reliées par un fil narratif quelconque, voilà, on invente une nouvelle histoire. Il y a comme ça, juste avant Chantons sous la pluie, un film qui vient d'être tourné et qui est un immense succès, qui est un Américain à Paris, d'après le catalogue Gershwin.
Alors en même temps, Chantons sous la pluie, c'est un peu plus que... C'est un film catalogue, comme vous le dites, mais c'est un peu plus que ça, parce qu'il y a une vraie histoire, vous allez nous la raconter. Et en fait, je me demande, c'est vous qui allez me le dire, si ça n'est pas le premier film rétrospectif sur l'art du cinéma.
À Hollywood, on a toujours aimé les films miroirs. C'est-à-dire que déjà, du temps du cinéma muet, il y a des films comme Show People de King Vidor, qui sont des films sur le milieu hollywoodien. Souvent, ce sont des comédies qui satirisent le milieu hollywoodien. Parce qu'il y a une énorme... disons que c'est une industrie qui a un pouvoir énorme.
Pas déjà seulement, à l'époque.
Déjà à l'époque, depuis les années 10. Non seulement à travers les films eux-mêmes, mais aussi à travers la vie des stars, ce qu'on appellerait aujourd'hui les magazines People. Mais il y a à l'époque des magazines de cinéma qui se vendent à des millions d'exemplaires, qui sont suivis par les fans. Enfin, tout ça est d'ailleurs introduit aussi dans le scénario de Chantons sous la pluie. Alors, c'est un film mis en abîme, comme on dit aujourd'hui, de façon un peu sophistiquée, mais qui finalement reprend une tradition de Hollywood de se moquer ou de faire mine de se moquer de soi-même.
D'ailleurs, donc je l'ai dit, Lockwood est un acteur de cinéma muet dont les films triomphent en particulier grâce à son duo avec cette actrice, Lana Lamont. J'ai dit aussi qu'il arrangeait un peu sa légende. Et la satire se double de comique par le fait que l'actrice est idiote, car à un moment, on voit qu'elle croit ce que ces journaux dont vous parlez racontent, c'est-à-dire qu'elle est fiancée avec Don Lockwood alors qu'elle ne l'est pas.
Disons que le film fait bien la différence entre être une star, ce qui est plus facile à faire... avaler à un public au temps du cinéma muet et être un interprète talentueux, un artiste, quelqu'un qui crée son art à force aussi de travail et de sincérité. Lina Lamont, c'est juste une image qui a fait tilt dans l'esprit du public de cinéma muet, mais en fait, c'est pas uniquement qu'elle est pas très intelligente, parce que le film nous indique que on n'a pas besoin d'être très intelligent pour devenir vedette de cinéma. En revanche, elle a un handicap physique qui est masqué évidemment par le fait qu'elle n'est star que de films muets, c'est sa voix.
Oui.
Or, il y a une chose qui va apparaître à la fin des années 20, qui est le cinéma parlant.
C'est le chanteur de jazz, on
voilà,
27,
c'est le chanteur c'est de jazz, qui est un film qui est d'ailleurs qui n'est pas tellement parlant, mais qui est surtout chantant, parce que c'est comme un film muet avec de temps en temps des chansons. Et justement, le chanteur de jazz, c'est aussi la naissance d'un nouveau genre, qui est la comédie musicale.
Alors comment cette histoire du chanteur de jazz se greffe dans l'histoire de Don Lockwood? Que se passe-t-il? Donc lui, c'est une vedette, une grande vedette du muet, avec Lina, sa partenaire. Et arrive donc
le cinéma parlant. Lina Lamont a une voix impossible, une voix de crécelle, et c'est amusant parce que dans le film, on nous retarde la première phrase que prononce Lina Lamont, puisque dans son entourage, tout le monde s'efforce de faire en sorte qu'elle ne prononce aucun mot en public. Donc c'est uniquement quand elle peut s'exprimer en privé, c'est-à-dire en dehors du public des fans ou du spectacle, etc., qu'on découvre qu'elle a une voix épouvantable. Et quand, un tout petit peu plus tard, on apprend que Hollywood s'apprête à être bouleversé par cette révolution qu'est le cinéma parlant, tout d'un coup, il y a un tilt qui se fait évidemment dans la tête du spectateur de Chantons sous la pluie, puisqu'il sait que le cinéma est devenu parlant. C'est que... En fait, le premier moteur dramatique du récit du film est lancé, puisqu'il y a une incompatibilité entre Lina Lamont en tant que vedette et la transformation du cinéma en cinéma parlant.
Et arrive, ou est arrivée au début du film, une jeune serveuse au début, qui est jouée par Debbie Reynolds, et qui va être le truchement de l'histoire.
Absolument. Alors, Debbie Reynolds, qui à l'époque est une débutante, donc il y a un gros pari de la part de la MGM, de Gene Kelly, de tout le monde, de miser sur elle pour en faire une star. Ce que raconte aussi le film, c'est que on ne peut pas complètement faire une star, il faut qu'il y ait un petit peu de talent quand même au départ. Et l'importance de son personnage, c'est que tant qu'elle n'est pas encore là, non seulement le personnage de Don Lockwood n'a pas connu l'amour, le vrai amour, puisqu'il n'a qu'un amour de pacotille pour les fans avec Lina Lamont, mais il n'a jamais eu l'occasion d'exprimer dans la vie ses talents de chanteur et de danseur. Or, l'importance de ce genre qu'est la comédie musicale, c'est qu'on a besoin de croire à des personnes qui, tout d'un coup, se mettent à chanter et à danser. En l'occurrence, c'est quand Gene Kelly tombera amoureux qu'il basculera dans une sorte d'état second qui lui permettra de chanter et de danser avec la jeune première.
Alors, pour être un peu plus précis, le personnage que joue Debbie Reynolds, au départ, il la rencontre dans une situation de serveuse. Elle lui fait un petit numéro condescendant. Oh non, moi, le cinéma populaire, ça ne m'intéresse pas, je m'intéresse qu'au théâtre. Et puis, il la retrouve par hasard dans un cabaret où là, il se rend compte qu'elle sait danser et chanter. Et donc, que va-t-il se passer entre elle et Lina Lamont?
Ah non, mais surtout, faut savoir qu'au départ, elle prétend auprès de Dawn Lockwood, être une jeune actrice vraiment légitime, oui. Donc de théâtre, etc. Et comme toutes les actrices débutantes, elle fait des ménages, c'est-à-dire que voilà, elle se produit dans un cabaret. Il se trouve que en rencontrant Dawn Lockwood, non seulement elle va éveiller en lui l'amour, mais ils vont s'apercevoir qu'ils peuvent danser ensemble, qu'ils peuvent stimuler chacun, enfin stimuler mutuellement leurs talents musicaux, et que donc elle sait chanter et elle sait danser. Donc c'est une vedette a priori potentielle musicale et tout à fait prête à servir pour le cinéma parlant, ce que n'est pas Lina Lamont. Première chose qui va arriver à sauver le film muet, qui est une catastrophe, parce qu'on essaie d'en faire un film parlant.
Alors donc il s'agit d'un film que Lina Lamont et Dawn Lockwood tournent ensemble, un film de cap et d'épée, et qui se trouve qu'on transforme en parlant, n'est-ce pas, pour s'adapter au goût du jour. Et puis quand le public d'une avant-première entend Dawn Lockwood crier, dire I love you de manière ostentatoire, il éclate de rire et on décide de refaire une comédie musicale à partir de ce film.
Alors c'est pas seulement on décide, c'est que en même temps que se révèle l'amour de Dawn Lockwood et Cathy, jouée par Debbie Reynolds, avec la complicité du meilleur ami de Dawn Lockwood, qui est Cosmo Brown, joué par Donald O'Connor. À un moment, c'est Debbie Reynolds, c'est la jeune première complètement naïve et débutante, qui a l'idée et qui se dit « mais si on en faisait une comédie musicale ?» Et à partir de ce moment-là, il n'y a plus aucun frein, non seulement à l'expression des sentiments, mais aussi au succès du film et à la révélation que le personnage joué par Gene Kelly sait chanter et sait danser.
Et par-dessus le marché, on découvre aussi, au moment où le film est montré et que les acteurs viennent saluer, que se passe-t-il quand Lina et Dawn Lockwood viennent saluer et que Dawn Lockwood dit quelques mots au public, elle doit parler et tout d'un coup...
Donc, révélation lors de la première du film, lorsque Lamont doit faire un discours. Alors, elle reprend sa voix de crécelle et le public s'interroge. On se demande si peut-être c'est pas une erreur de micro. Finalement, le public demande à Lina, chante, Lina chante, puisque dans le film, elle chantait si bien. Mmh. Et on demande à Cathy de se placer derrière le rideau et à nouveau de doubler la voix de la star. Et comme la star, entre-temps, menace de prendre le pouvoir dans le studio, eh bien, Gene Kelly, Dawn Lockwood, avec le producteur du film, qui voit son pouvoir lui échapper, et avec la complicité de Cosmo, le fidèle compagnon, révèle en levant le rideau l'imposture, à savoir que la vraie star du film musical, celle qui chante vraiment et qui parle vraiment à la place de Lina Lamont, eh bien, c'est Cathy Seldon. Donc, voilà, à la fois l'amour pourra reprendre ses droits et le film pourra devenir un succès légitime, tandis que Cathy deviendra star à part entière et non plus seulement comme doubleuse d'une autre star.
Alors, tout ça s'est produit pas exactement comme ça, mais en tout cas, les chutes et les continuations de carrière après le passage au parlant. Par exemple, on sait très bien que Greta Garbo, pour qui on a tremblé un moment, a réussi son passage au parlant, mais que John Gilbert, un de ses plus fameux partenaires, lui, s'est effondré complètement. Et d'ailleurs, je crois que la scène de Dawn Lockwood disant « I love you » et faisant rire les gens est réellement arrivée à John Gilbert.
Absolument. Alors, John Gilbert, en plus, John Gilbert était alcoolique et il s'entendait très mal avec le patron de la MGM, Louis B. Mayer. Donc, on dit que c'est un peu exprès, qu'on l'a poussé un peu dans le ravin, et que à un moment donné, lors d'une séquence d'amour, on lui a dit d'improviser son dialogue, un peu de la même façon que le fait Dawn Lockwood dans Chantons sous la pluie. John Gilbert, qui déjà avait une vie compliquée, la légende hollywoodienne voudra que sa voix inadéquate le plonge dans la dépression et malgré la reine Christine avec Greta Garbo qui prouve que sa voix était tout à fait appropriée, eh bien il mourra complètement oublié et alcoolique 2 ou 3 ans après.
Nous allons maintenant entendre Gene Kelly dans le rôle de Dawn Lockwood qui chante You Are Meant For Me, reprise du film The Broadway Melody de 1929. Il est à noter que c'était le premier film parlant à avoir obtenu un Oscar et c'est évidemment une référence qu'ont fait les réalisateurs de Chantons sous la pluie en choisissant une chanson de ce film. Les paroles sont d'Arthur Freed et la musique de Nacio Herb Brown.
Life was a song, you came along, I've laid awake the whole night through. If I but dared to think you cared, this is what I'd say. And I was meant for you. Nature patterned you, and when she was done, you were all the sweet things, all love in one. You're like a plaintive
Melody. NTB, nous venons d'entendre Gene Kelly dans le rôle de Don Lockwood chanter dans Chantons sous la pluie. D'une manière anecdotique, Gene Kelly a dit après le film que, en s'en vantant un peu peut-être à la Don Lockwood, que ça avait été le numéro le plus facile de sa vie, alors que, dit-on, il avait 42 fièvres et qu'on avait peur qu'il attrape une pneumonie avec les trompes d'eau qu'on lui déversait dessus.
Moi, je pense que Gene Kelly, à mesure que le film devenait de plus en plus mythique, et y compris ce numéro sous la pluie, on ne lui parlait plus que de ça, ça l'irritait un peu. Parce qu'il disait, j'ai quand même fait d'autres choses dans ma vie. Pour lui, ça n'avait aucun sens de le séparer ou de le mettre en avant plus que les autres séquences du film.
J'en profite pour repréciser que le film est de Stanley Donen et de Gene Kelly, qui ont travaillé, je crois, trois fois ensemble.
Hein. Absolument. Gene Kelly, qui a débarré comme chorégraphe à Broadway, puis ensuite est devenu vedette à part entière, eh bien, il avait pour jeune collègue, puis plus tard assistant, Stanley Donen.
Qui avait été danseur d'ailleurs.
Qui avait été un peu danseur.
Un peu.
Et lorsque Gene Kelly va à Hollywood, il emmène, pour ainsi dire, Stanley Donen dans ses bagages. Et c'est vrai que, contrairement à Fred Astaire, par exemple, pour qui c'était l'interprétation et la danse face à la caméra interprétée par lui qui importait, Gene Kelly, lui, c'était pas le plus important. Gene Kelly se servait de sa notoriété d'interprète et de star pour faire ce qui l'intéressait vraiment, c'est-à-dire chorégraphier et mettre en scène. Et la preuve, c'est que à chaque fois qu'il demandait mettre en scène un film sans jouer dedans, c'était refusé. Donc on disait, vous devez jouer parce que c'était une star.
Ça lui est jamais arrivé de mettre en scène sans jouer ?
Ça lui est arrivé plus tard, lorsqu'il est devenu plus âgé et que c'était la fin de sa carrière en tant que superstar. Parce que c'est quelqu'un qui, comme on l'a dit, paraît plus jeune que son âge, donc il commence relativement tard à Hollywood, c'est-à-dire que même pour un danseur, on dit que les meilleures années c'est entre 20 et 30 ans. Lui, ses meilleures années c'est autour de la quarantaine.
Alors la chanson que nous avons entendue à l'instant, ces paroles sont d'Arthur Freed et je voudrais que nous en profitions, Entebbe, pour parler de quelque chose qui était très important au sein de la MGM puisque c'était les studios qui ont produit Chantons sous la pluie et qui passait aussi, je crois, pour le meilleur studio de comédie musicale de l'époque. Qui était cet Arthur Freed et qu'est-ce que c'était que la fameuse Freed Unit ?
Alors Arthur Freed, c'est au départ un auteur de chansons, un parolier, puisque comme vous l'avez rappelé, c'est lui qui a écrit quasiment toutes les chansons, enfin les paroles des chansons de ce film Chantons sous la pluie, et qui il avait démarré d'ailleurs comme Gene Kelly dans le film, il avait démarré comme musicien de plateau sur les films muets. Et ensuite, il a eu un tel succès en tant que parolier que voilà, sa carrière était lancée, mais c'est une carrière qui est assez circonscrite à la fin des années 20 et jusqu'à la fin des années 30, sur une décennie. Par la suite, ce que veut Freed, c'est devenir producteur, c'est-à-dire qu'il a découvert les plateaux de cinéma et il a découvert le potentiel aussi de non forcément encore réalisé de la comédie musicale à l'écran. Et il va pour cela faire ses armes, notamment comme assistant. Il est même pas au générique du Magicien d'Oz, alors que c'est lui qui est l'une des personnes majeures dans la production de ce film. Et petit à petit, il va produire des films à budget de plus en plus important. Ces films sont des succès, au point que on va lui donner carte blanche, puisque c'est l'âge d'or de la comédie musicale hollywoodienne, pour recruter des gens qui ne sont pas du sérail, qui viennent de Broadway, qui viennent de la scène. Et je veux dire aussi bien derrière l'écran que des acteurs. Des acteurs qui savent chanter et danser, mais aussi tout le personnel créatif, technique et artistique qu'il va recruter sur la scène de Broadway. Et dans la mesure où ce système marche, eh bien, on va même lui pardonner ses échecs commerciaux, parce qu'il a un grand sens de, pas du film d'auteur au sens où on l'entendrait aujourd'hui, mais de l'intégrité artistique, puisqu'il est persuadé que meilleur sera le film et mieux il marchera. Ce qui n'est pas forcément le credo de tous les producteurs, que ce soit à l'époque à Hollywood ou aujourd'hui.
Non, c'était pas un producteur banal.
C'est pas un producteur banal, et comme ses films ont du succès, eh bien, il est protégé par ses succès. Il se permet de risquer un peu plus, parfois d'engager un metteur en scène débutant qui s'appelle Minnelli, par exemple, de permettre à Gene Kelly et Judy Garland de jouer dans Le Pirate, une pièce très sophistiquée et qui sera d'ailleurs un échec commercial, mais c'est pas grave. Je veux dire, il y a dans son unité, globalement, il y a une rentabilité suffisante pour qu'il continue pendant une bonne dizaine d'années, presque une quinzaine d'années, à produire ces films qui représentent, on le dit aujourd'hui, la période la plus bénie de la comédie musicale hollywoodienne.
Alors, il y a deux personnes encore très importantes dans la création du personnage de Don Lockwood et du film, qui sont Betty Comden et Adolph Green, car ce sont ces deux personnes qui ont été appelées par Arthur Freed pour écrire le texte autour et donc inventer ce personnage. Et ils ont été très important au-delà de ce film dans l'histoire de Hollywood.
Ce qui est important chez le tandem Comden et Green, c'est que au départ ce sont eux-mêmes des interprètes, c'est-à-dire sur scène, ce sont des ils faisaient des sketchs qu'ils interprétaient avec Judy Holliday, leurs amis de l'époque, c'était aussi Jerome Robbins, Leonard Bernstein. Ils écrivent pour des personnages dont qui savent jouer eux-mêmes, donc leurs personnages sont toujours très incarnés. Et quand au départ Arthur Freed leur dit voilà, je veux faire un film catalogue, la seule chose que je sais, c'est que le film s'appellera Singing in the Rain, maintenant débrouillez-vous avec ça, trouvez-moi une histoire. Alors il y a l'idée que ce film va se situer à Hollywood, donc au départ ils se disent peut-être on va prendre un cow-boy, ça marche pas très bien. Et puis il y a Gene Kelly, dont le nom est intervient comme ça dans les réunions de production, et à partir du moment où il décide que ce sera un film sur un danseur ou pour un danseur, eh bien là, voilà, ils ont des ailes. Et leur grande force, c'est d'arriver à puiser dans des anecdotes véridiques qui sont légion à la MGM, puisque presque tout le personnel technique qui est là a vécu le passage du muet au parlant. Et y compris d'ailleurs certains des acteurs du film. Donc les anecdotes vont venir nourrir ce scénario, et le personnage de Gene Kelly, son charisme et sa personnalité vont aussi infuser le personnage de Don Lockwood.
Alors, Chantons sous la pluie n'est pas qu'une satire ou qu'un film sur Hollywood. Il y a une scène dans le film assez longue qui, a priori, ne sert à rien dans l'histoire, ce qui, à mon avis, le rend encore meilleur. C'est ce qu'on appelle un dream ballet, un ballet rêvé, qui décrit les rêves des personnages. C'était une chose relativement nouvelle. Il y en avait eu déjà, je crois, une fois avant au cinéma dans un film à Moulians, mais là, ça s'est développé. Et je voudrais que vous me décriviez exactement cette scène, ce que c'est exactement que ce ballet de rêve, ce ballet onirique.
À un moment donné, il y a un prétexte qui est que pour faire de ce film de KPDP une comédie musicale, il va falloir que Don Lockwood et son copain Cosmo, qui deviendra directeur musical du studio, qu'il convainque le producteur qu'il y a des production values, c'est-à-dire que il y aura des attractions dans le film suffisantes pour attirer le public. Donc, comme ça va être un film musical, l'une de ces attractions, ce sera ce ballet que, tant bien que mal, ils essaient de raconter au producteur, mais le spectateur, qui a beaucoup plus de chance que le producteur, lui, voit déjà le ballet qui va être réalisé bien plus tard, et qui est une sorte de idéalisation.
C'est Don Lockwood qui dit « ça pourrait commencer
voilà,
par... »
Voilà, ça pourrait commencer comme ça. Et puis ils sont dans une salle de projection et tout d'un coup, voilà, on a une sorte de mythe du succès américain, c'est-à-dire du débutant qui arrive à Broadway et puis qui va voler de succès en succès pendant que les déconvenues amoureuses, dues essentiellement à son attirance pour une vamp jouée par Sid Charisse.
Un des plus beaux rôles de Sid Charisse.
Un des plus beaux rôles.
Et d'ailleurs, pardon de vous interrompre, il faut dire que il y a cette part onirique, mais il y a aussi une part de citation dont nous n'avons pas assez parlé, de citation du cinéma dans ce film, car Sid Charisse est grimé un peu à la loulou. Il y a un personnage qui est Scarface dans la comédie rêvée. Donc c'est aussi un film, on pourrait pas dire intellectuel, mais enfin avec des recherches et une intention plus que grand public.
Oui, en effet, ce qui est intéressant dans Chantons sous la pluie, c'est que c'est un film qui est truffé de références, mais n'empêche pas du tout le spectateur qui ne les comprend pas d'apprécier le film.
L'intéressant est que Chantons sous la pluie est un film qui satirise l'artifice, mais qui le fait lui-même de manière artificielle, et je le dis dans le meilleur sens du terme, il n'y a aucun supposé réalisme dans ce film, et tant mieux. Est-ce que ça ne serait pas un film sur la fausse idée du vrai et du faux ?
Je pense que Chantons sous la pluie, c'est un film sur la nécessité de l'illusion et de l'imaginaire dans notre vie, mais que elles servent à enrichir notre vie et non pas à la remplacer. Ce qui est fort dans Chantons sous la pluie, c'est que c'est un hymne à la fois au divertissement et à l'évasion, mais aussi à la révélation de soi. Comme sont la plupart des grandes comédies musicales de l'époque, à travers le chant et la danse.
N.T. Bean, que vous a appris le personnage de Don Lockwood ?
C'est qu'il ne faut pas avoir peur d'exprimer des choses qui peuvent paraître ridicules au commun des mortels, à savoir par exemple chanter ou danser sous la pluie, y compris devant un agent de police, parce que finalement c'est comme ça qu'on retrouve quelque chose de l'enfance perdue qui est en soi et que la sincérité de cette enfance qui a pu être par la suite masquée par plein d'impératifs, notamment sociaux, eh bien, aura droit de cité dans l'existence et nous permettra de mieux vivre.
C'était Personnage en personne, le 91e. La semaine prochaine, je parlerai du personnage de la Traviata, créé par Giuseppe Verdi dans la Traviata.
Comme si j'ai... J'étais assis là-haut au paradis.
Réalisation Clotilde Pivin, attachée de production Virginie Leduo, prise de son Bernard Laniel.
De ma vie, le paradis acquis.
Dans un instant, Victor Massé de l'Épinay et son émission sur la bande dessinée.
C'était un grand jeudi. Tous les jours. De l'autre côté de la rue, mon paradis perdu. Soudain, quel est ce rayon éblouissant, élu parmi ces milliers de passants sans rêve.